Chapitre 20. Locke. Aussi vide et nu qu'un tableau noir, avant l'entrée du professeur. Sophie ne rentra qu'à 8h30, bien plus tard que prévu. Mais qu'avait-elle prévu au juste? Elle avait sauté le repas et laissé à sa mère un mot disant qu'elle pensait rentrer vers 7h. « Ça ne peut plus continuer comme ça, Sophie. J'ai dû appeler les renseignements pour savoir s'ils avaient le numéro d'un certain Alberto dans la vieille ville. Mais ils m'ont ri au nez. Ce n'était pas facile de partir plus tôt. Nous sommes sur le point de découvrir la solution d'un grand mystère. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Non, je t'assure. Tu as pensé à l'inviter pour ton anniversaire? Zut, j'ai oublié. Écoute, maintenant j'exige que tu me le présentes. Dès demain, une jeune fille n'a pas à fréquenter un monsieur plus âgé comme tu le fais. Tu n'as vraiment pas besoin d'avoir peur d'Alberto. Tu devrais plutôt te méfier du père de Hilde. De quelle Hilde? La fille de celui qui est au Liban. Quel type louche celui-là? Peut-être qu'il contrôle le monde entier. Si tu ne me présentes pas à ton Alberto sur le champ, je t'interdis de le revoir. Je ne serai tranquille qu'après avoir vu quelle tête il a. Sophie eut une idée et bondit dans sa chambre. « Mais où tu vas comme ça ?» lui cria sa mère. En moins de temps qu'il n'en faut, Sophie était redescendue au salon. « Tu vas voir tout de suite de quoi il a l'air. J'espère que tu me laisseras tranquille après. » lança-t-elle en brandissant une cassette vidéo. « Il t'a donné une cassette vidéo ?»« Oui, sur Athènes. » On vit d'abord des images de l'acropole. Sa mère resta muette d'admiration quand Alberto apparut sur l'écran en s'adressant directement à Sophie. Sophie remarqua quelque chose auquel elle n'avait pas prêté attention précédemment. L'acropole était envahie par toutes sortes de groupes touristiques. L'un d'eux portait une pancarte sur laquelle était écrit « Hilde ». Puis, on voyait Alberto arpenter l'acropole et se placer sur la colline de l'Aréopage, là où saint Paul avait apostrophé les Athéniens. Enfin, on le voyait s'adresser à Sophie depuis l'agora. Sa mère parvenait à peine à aligner deux phrases à la suite. « Mais c'est incroyable! C'est lui, Alberto? Tiens, encore l'histoire de ce lapin. Mais c'est vraiment à toi qu'il parle, Sophie? J'ignorais que saint Paul avait été à Athènes. » La vidéo se rapprochait du moment où le vieil Athènes ressurgissait des ruines. Sophie arrêta la bande, car elle ne voyait pas l'intérêt de lui présenter aussi Platon, maintenant qu'elle avait montré qui était Alberto. Il y eut un silence. « Tu ne le trouves pas mignon ? » demanda-t-elle d'un ton moqueur. Ce doit quand même être une drôle de personne pour se faire filmer à Athènes et envoyer la cassette à une jeune fille qu'il connaît à peine. Quand était-il à Athènes? Je n'en ai aucune idée. Mais il y a autre chose. Ah? Il ressemble d'une manière étonnante à ce major qui a vécu pendant quelques années là-bas dans la forêt, dans le petit chalet. Eh bien, c'est peut-être lui, maman. Ça fait plus de 15 ans qu'on est sans nouvelles de lui. Il est peut-être parti en voyage, à Athènes par exemple. Sa mère secoua la tête. Je me rappelle l'avoir vu une fois dans les années 70, et il paraissait déjà aussi âgé que cet Alberto que j'ai vu aujourd'hui. Il avait un nom étranger. Knox? C'est possible, Sophie. Peut-être qu'il s'appelait Knox. Ce n'était pas Knag, par hasard? Non, je dois confondre. De qui veux-tu parler en disant Knox ou Knag? D'Alberto ou du père de Hilde? Je commence à tout mélanger. Il reste quelque chose à manger? Tu n'as qu'à réchauffer la viande hachée. Deux semaines s'écoulèrent sans qu'Alberto se manifeste. Elle reçut une autre carte d'anniversaire au nom de Hilde, mais bien qu'on approchât de la date, elle n'avait encore rien reçu à son nom. Un après-midi, Sophie descendit en bus dans la vieille ville et alla frapper à la porte d'Alberto. Il n'était pas chez lui, mais il y avait un mot sur la porte. « Tous mes vœux pour ton anniversaire, Hilde. Nous approchons du moment décisif, l'instant de vérité, mon enfant. Chaque fois que j'y pense, ça me fait tellement rire que je dois me retenir de faire pipi. Berkeley est dans le coup, évidemment, Alors, accroche-toi. » Sophie arracha le mot et le glissa dans la boîte aux lettres d'Alberto en sortant. Zut alors, il n'était quand même pas reparti à Athènes. Comment pouvait-il l'abandonner en laissant toutes ces questions sans réponse? Le jeudi 14 juin, en rentrant de l'école, elle aperçut Hermès dans le jardin. Elle courut vers lui et le chien bondit à sa rencontre. Elle lui passa les bras autour du cou, comme si lui seul avait le pouvoir de résoudre toutes ses énigmes. Elle rédigea à nouveau un mot pour sa mère, en prenant soin cette fois-ci de donner l'adresse d'Alberto. Elle ne pouvait s'empêcher de penser au lendemain. Non que ce fût le jour de son anniversaire, puisqu'elle ne le fêterait pas avant le soir de la Saint-Jean, mais parce que c'était aussi l'anniversaire de Hilde. Sophie pressentait qu'il se passerait quelque chose d'important. Ça mettrait en tout cas un terme à toutes ces cartes de vœux du Liban. Il y avait sur le chemin un terrain de jeu, et Hermès s'arrêta devant un banc, comme s'il voulait indiquer à Sophie de s'asseoir là. Elle s'assit et caressa le pelage roux tout en le regardant droit dans les yeux. « Il va se mettre à gronder », pensa Sophie. Elle vit ses mâchoires trembler, mais Hermès ne gronda ni n'aboya. Il ouvrit simplement la gueule et dit « Joyeux anniversaire, Hilde !» Sophie fut comme pétrifiée. Est-ce que c'était le chien qui venait de parler? Non, ce devait être une sorte d'hallucination, à force de songer à Hilde. Mais une petite voix en elle lui disait qu'elle avait bien entendu le chien prononcer ces trois mots, et qui plus est, d'une belle voix grave. L'instant d'après, l'incident était clos. Hermès aboya bien fort, comme pour dissimuler le fait qu'il venait de parler avec une voix humaine, et se remit en route vers la maison d'Alberto. En levant les yeux vers le ciel, Sophie aperçut quelques gros nuages. Le temps menaçait de changer. À peine Alberto avait-il ouvert la porte que Sophie lui dit « Trêve de politesse, tu t'es bien fait avoir et tu le sais, va !»« De quoi veux-tu parler, mon enfant ?»« Le major a fait parler Hermès. » »« Aïe, ça se corse. Il a réussi à faire ça ?»«
Eh oui. » »«
Et qu'a-t-il dit ?»«
Devine. » »«
Bon anniversaire ou quelque chose dans le genre ?»«
Gagné. »
Alberto fit entrer Sophie. Il portait un costume pas très différent de celui de l'autre jour, avec moins de rubans et de dentelles.
« Ce n'est pas tout !» déclara Sophie.
« Qu'est-ce que tu entends par là ?
Tu n'as pas trouvé le mot dans la boîte aux lettres ?»«
Si, mais je l'ai tout de suite mis à la poubelle. »
« Mais que lui a fait ce Berkeley pour qu'il réagisse ainsi ?»«
Attendons de voir. » »«
Mais tu ne vas pas m'en parler aujourd'hui ?»«
Si, aujourd'hui même. » Alberto s'assit confortablement et commença. La dernière fois que nous étions ici, je t'ai parlé de Descartes et de Spinoza qui avaient en commun d'être tous deux de purs rationalistes. Et un rationaliste, c'est quelqu'un qui croit au pouvoir de la raison. Oui, un rationaliste croit que la raison est à la source de la connaissance. Il croit aussi que l'homme naît avec certaines idées, idées innées, présentes dans la conscience, et qui précède toute expérience. Plus l'idée était claire, plus elle devrait correspondre à quelque chose de réel. Tu te rappelles que Descartes déduisait de l'idée d'un être parfait que Dieu devait nécessairement exister. Tu crois que j'oublie aussi vite? Eh bien, à partir du XVIIIe siècle, cette tradition rationaliste va être battue en brèche par ce qu'on a appelé l'empirisme. Plusieurs philosophes défendirent le point de vue que nous n'avons aucune conscience des choses ou des événements avant de les avoir appréhendés par nos sens.
C'est donc de l'empirisme que tu veux me parler aujourd'hui?
Je vais essayer. Les principaux empiristes ou philosophes de l'expérience étaient Locke, Berkeley et Hume, tous trois anglais, alors que les grands rationalistes du XVIIe siècle étaient un Français, Descartes, un Hollandais, Spinoza, et un Allemand, Leibniz. C'est pourquoi on fait parfois la distinction entre l'empirisme anglais et le rationalisme continental.
D'accord, mais est-ce que tu peux reprendre ta définition de l'empirisme?
Un empiriste
veut déduire toutes ses connaissances sur le monde de ce que ses sens lui transmettent. Il faut partir d'Aristote pour trouver la formule classique « Rien n'existe dans la conscience qui n'ait existé avant dans les sens ». Il faut y voir une critique directe de la théorie des idées chère à Platon, selon lequel l'homme naît avec des idées venant du monde des idées. Locke reprend la phrase d'Aristote à son compte, et quand il l'utilise, c'est cette fois contre Descartes. Rien n'existe dans la conscience qui n'ait existé avant dans les sens. Nous n'avons aucune représentation ou idée préconçue du monde dans lequel nous naissons avant de l'avoir perçu. Si nous avons une représentation ou une idée qui n'a aucun lien avec des faits dont nous avons fait l'expérience, c'est alors une idée fausse. Avec des termes tels que « Dieu », « éternité » ou « substance », la raison tourne à vide, car personne n'a vraiment fait l'expérience de Dieu, de l'éternité ou de ce que les philosophes avaient appelé la substance. On peut à loisir écrire des traités savants qui, au bout du compte, n'apportent aucun nouveau savoir réel. Ce type de raisonnement peut sembler fort judicieux, mais ce n'est qu'une forme de masturbation intellectuelle. Il s'agissait de tout repasser au peigne fin, comme quand on cherche de l'or pour découvrir parmi toute la boue et le sable quelques pépites d'or. Et ces pépites d'or, c'étaient les vraies expériences ? Ou du moins, les pensées liées à l'expérience des hommes. Les empiristes se proposaient de passer en revue toutes les idées des hommes pour vérifier si elles étaient fondées sur l'expérience. Prenons un philosophe à la fois. Bon, je t'écoute. Le premier fut un Anglais, John Locke, qui vécut de 1632 à 1704. Son livre le plus important parut en 1690, sous le titre « Essai sur l'entendement humain ». Il tentait d'éclaircir deux questions. La première consistait à s'interroger sur l'origine des pensées et des représentations chez l'homme. La deuxième posait le problème de la fiabilité de nos sens. Plutôt ambitieux comme projet. Examinons le premier point. Locke est convaincu que toutes les pensées et les images que nous avons dans la tête sont le fruit de nos diverses expériences. Avant de ressentir quelque chose, notre conscience est comme une tabula rasa, c'est-à-dire un tableau vierge. Ne te sens surtout pas obligé de parler latin. Avant de percevoir quelque chose, notre conscience est donc aussi vide et nue qu'un tableau noir avant l'entrée d'un professeur dans la classe. Locke compare aussi la conscience avec une pièce sans meubles. Nous commençons à percevoir le monde autour de nous grâce à la vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe. Les petits enfants sont imbattables sur ce point. De cette manière, naissent ce que Locke appelle des idées sensorielles simples. Mais la conscience n'accepte pas passivement ces idées. Elle les confronte, les soumet à divers raisonnements, les met en doute, etc. De ce travail intellectuel surgissent ce que Locke appelait les idées réflexives. Il opère donc une distinction entre la perception et la réflexion. C'est ici qu'il faut être sur ses gardes. Être sur ses gardes ? Locke prend soin de souligner que nos sens nous permettent seulement d'accéder à des impressions simples. Quand je mange une pomme, par exemple, je ne vois pas la pomme comme un tout, mais j'ai une série d'impressions juxtaposées les unes aux autres. Je perçois quelque chose de vert qui dégage une impression de fraîcheur et dont la saveur est un peu acide. Ce n'est qu'après avoir mangé une pomme plusieurs fois que je pourrais formuler clairement la pensée « Je mange une pomme ». Locke dit que nous avons obtenu une vision synthétique de la pomme. Nous pouvons du moins être sûrs que ce que nous voyons, entendons, sentons et goûtons est tel que nous l'avons perçu. Oui et non. Le monde est-il vraiment tel que nous le percevons? C'était la deuxième question de Locke, et rien n'est moins sûr, Sophie. Ne soyons pas trop pressés, c'est le premier devoir d'un philosophe. Je sens que je vais devenir aussi muette qu'une carpe. Locke distingue dans le domaine des sens les qualités primaires des qualités secondaires et se réfère aux philosophes qui l'ont précédé, tels Descartes. Comment ça ? Les qualités primaires des sens recouvrent le volume, le poids, la forme, le mouvement et le nombre des choses. Nous pouvons affirmer que nos sens nous renseignent utilement sur ces qualités. Mais nous disons aussi que quelque chose est sucré ou acide, vert ou rouge, chaud ou froid. C'est ce que Locke appelle les qualités secondaires des sens. Et ces impressions telles que la couleur, l'odeur, le goût ou le son ne sont pas des qualités immanentes aux choses. Elles ne reflètent que l'effet produit sur nos sens. Le goût, ça ne se discute pas. Justement, les qualités primaires comme la grandeur ou le poids sont irréfutables, car elles sont constitutives des choses elles-mêmes, alors que les qualités secondaires, comme la couleur ou le goût, varient d'un animal à l'autre et d'un homme à l'autre selon l'appareil sensoriel de chacun. Quand Yoron mange une orange, c'est pour elle comme quand les autres mangent un citron. Elle ne prend en général qu'un quartier à la fois et trouve que c'est acide. Et moi, je trouve cette même orange juteuse et sucrée. Et aucune de vous deux n'a raison ou tort. Vous ne faites que décrire l'effet produit par l'orange sur vos sens. Il en va de même pour la couleur. Supposons que tu n'aimes pas une certaine nuance de rouge. Si Yoron porte précisément une robe de ce rouge-là, mieux vaut garder tes goûts pour toi. Vous ne voyez pas cette couleur de la même manière. Ce qui ne veut pas dire que la robe est jolie ou laide. Mais tout le monde est d'accord pour admettre qu'une orange est ronde. Oui, si tu as une orange à la main, il est impossible de juger qu'elle a une forme cubique. Tu peux la juger plus ou moins sucrée ou acide, mais tu ne peux pas juger qu'elle pèse 8 kilos si elle ne pèse que 200 grammes. Tu peux peut-être croire qu'elle pèse plusieurs kilos, mais dans ce cas, tu te fourvoies complètement. Si différentes personnes doivent deviner le poids d'un objet, il y en aura toujours une qui trouvera le poids le plus approximatif et aura donc plus raison que les autres. De même, pour deviner un nombre ou déterminer s'il y a un mouvement ou pas. Soit la voiture roule, soit elle est à l'arrêt. Je comprends. Concernant la réalité dans l'espace, l'étendue, Locke rejoint par conséquent Descartes en reconnaissant qu'il existe certaines qualités que la raison de l'homme peut appréhender. On voit mal comment ne pas être d'accord sur ce point. Et sur un autre plan, Locke ouvre la voie à un savoir intuitif ou démonstratif. Certaines règles morales fondamentales valent selon lui pour tous. Il se fit le chantre de ce qu'on a appelé le droit naturel, ce qui est un trait du rationalisme. De même, Locke affirme que la raison humaine porte en elle l'idée de Dieu. Il n'a peut-être pas tort. Sur quel point? Lorsqu'il affirme qu'il existe un Dieu. On peut bien sûr tout imaginer, mais ce n'est pas pour lui une question de foi, mais de raison inhérente à l'homme. Cette conception de Dieu qui est caractéristique du rationalisme implique aussi la liberté de penser et la tolérance. Il s'intéressait également à l'égalité entre les sexes. Il pensait en effet que la position subordonnée de la femme par rapport à l'homme n'était pas une donnée de la nature, mais bien le fait des êtres humains. Ce qui revenait à dire qu'on pouvait aussi changer cet état de choses. C'est aussi tout à fait mon avis. Locke fut un des tout premiers philosophes à s'intéresser au rôle des deux sexes et exerça à ce sujet une grande influence sur son compatriote, John Stuart Mill, qui à son tour défendit l'égalité entre les sexes. Locke était en effet sur beaucoup de points en avance sur son époque, et ses idées furent reprises en France au XVIIIe siècle, dit le siècle des Lumières. C'est à lui que l'on doit, entre autres, le principe du partage du pouvoir. Tu veux parler de la répartition du pouvoir entre différentes institutions politiques? Est-ce que tu te rappelles lesquelles? Il y a le pouvoir législatif, ou l'Assemblée nationale. Le pouvoir judiciaire, représenté par les tribunaux. Et le pouvoir exécutif. Autrement dit, le gouvernement. Cette tripartition nous vient de Montesquieu. Locke avait insisté sur la nécessité d'une séparation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif pour éviter la tyrannie. Il avait lui-même vécu à l'époque de Louis XIV qui exerçait tous les pouvoirs. « L'État, c'est moi », disait-il. Nous disons que c'était un monarque au pouvoir absolu, c'est-à-dire nullement fondé sur le droit. Pour fonder un État sur le droit, il faudrait, selon Locke, que les représentants du peuple rédigent les lois et laissent le roi ou le gouvernement les mettre en application.